sœur, ici Sabrina et Thomas, qui a 9 ans. En fait, on fait la route des vacances et en fait, on se retrouve à écouter des anciens podcasts et des nouveaux. Et donc, on est sur l'appli France Inter et on adore parce qu'on a écouté Les Goonies, on a écouté Retour au futur, on a écouté Animal Crossing, on a écouté Rocky. Bah, on s'éclate en fait et la route passe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite avec un peu de musique et beaucoup de pop culture. Voilà, merci pour l'émission, à très vite.
Bonjour Blockbuster, je m'appelle Léonard, j'ai 8 ans et j'aimerais bien que vous fassiez un épisode sur Ninjago parce que j'aime bien votre émission.
Ulysse 31, pour moi, cela signifiait la fin de la messe. Alors, il fallait se dépêcher, courir pour regarder l'épisode et ne pas en manquer une seule seconde. Depuis, j'ai perdu la foi, mais j'aime toujours Ulysse 31.
To be or not to be, not to be.
C'est pas toujours évident de bien s'entendre avec son frère ou sa sœur. Bon, vous me direz, qu'est-ce que j'y connais, je suis fils unique. Néanmoins, j'ai deux enfants très différents et je vois bien que leur mère et moi sommes finalement leur seul point commun. En dehors de certains vêtements et certains jouets que l'un récupère de l'autre, rien ne dit que ces deux-là s'entendraient dans un monde où ils n'auraient pas les mêmes parents. Donc déjà, si la cohabitation est compliquée, vous imaginez devoir travailler tous les jours avec votre frère ou votre sœur ? Quand on se prend déjà la tête sur le niveau du jus d'orange dans le verre du frangin, ou le morceau de gâteau qui est 1 cm plus gros dans l'assiette de la frangine, comment on gère une carrière professionnelle en famille ? Les Jackson 5, est-ce qu'on mesure bien l'enfer d'avoir à répéter tous les jours des chansons et des chorégraphies avec votre fratrie ? Quel effet ça leur a fait de voir le petit Michael, jeune prodige, tirer si tôt la couverture à lui ? Est-ce que t'es fier ou est-ce que très vite tu peux plus le voir en peinture ? Est-ce que Tito, Jermaine et Marlon ont fini par enfermer Michael dans un placard pour lui faire payer son statut de chouchou du public ? Est-ce que Joe Jackson, leur tyran de père, les engueulait en leur disant de prendre Michael, pour exemple ? Ou est-ce qu'ils étaient tous logés à la même enseigne ? Après, attention, ça peut aussi le faire de bosser entre frères et sœurs. Les Hanson ! Vous vous souvenez des Hanson ? Ce boys band qui a été fait avec tous les petits blonds qui n'ont pas réussi le casting Kinder Surprise. Ils avaient l'air heureux, eux. Et puis, il y a les frères Gallagher du groupe Oasis. Dans la Bible, la première fratrie dont on entend parler, c'est Abel et Caïn. Comme quoi, je vous l'ai bien dit, c'est pas toujours facile de s'entendre avec son frère.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Sigrist.
What do you think of rock and roll today?
I think it's shit.
But I think we're great. You know what I mean? There is no rock and roll today, is there? There's only us. Anybody who likes the songs, that's what we play for. Anybody who don't like the songs, can go and piss off.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
Dans les années 90, la perfide Albion, dont le leg au rock international n'est pourtant plus approuvé, administre un nouvel électrochoc à la musique mondiale avec le groupe Oasis, porté par les frères Gallagher, Noël et Liam, deux fortes têtes prolétaires passionnées de foot et de musique, comme ça semble si souvent être le cas à Manchester. Avec leur mélodie culte et leur look de mauvais garçon qu'ils sont à la vie comme à la scène, Oasis a marqué la planète entière avec des tubes tels que Wonderwall ou Live Forever. Pour revenir sur ce groupe culte, j'ai avec moi Nico Pratt, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste culturel et auteur du livre « Oasis ou la revanche des ploucs » coécrit avec Benjamin Durand, paru aux éditions Playlist Society.
C'est ça, exactement.
Avec nous également, évidemment. Benjamin Durand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste culturel et archiviste télévision et vous avez coécrit « Oasis ou la revanche des ploucs » avec Nico Pratt.
Oui, ça tombe très bien.
Ça tombe bien, hein. Ouais. On fait bien les choses. Avec nous également mon camarade Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour, je n'ai écrit aucun livre, je suis nul.
C'est pas grave. On sait surtout que vous êtes humoriste et chroniqueur sur France Inter. Et également, ça on le sait moins, vous êtes fan de musique et vous avez eu la chance de voir Oasis sur scène.
Et oui, car je suis âgé, donc j'ai vécu tout ça en direct.
Bon, on va en parler. Oui. On peut également vous retrouver sur scène pour votre spectacle Tanguy Pastureau n'est pas célèbre le 30 septembre au Théâtre Sébastopol de Lille, le 13 décembre au Folies Bergères à Paris, le 14 janvier au Zénith de Pau et le 28 janvier à la Bourse du Travail de Lyon.
Et voilà.
Ensemble, on va retracer la carrière du groupe Oasis, leurs influences. On tentera de comprendre comment le milieu social et les traumas familiaux ont à la fois façonné le style, mais aussi les différences entre les frères Gallagher. On parlera de ce que représente Oasis pour l'Angleterre. Et surtout, on les écoutera parce qu'on est quand même là pour ça. Allez, on fait la nique au Brexit. Pendant un peu plus d'une heure maintenant, on est anglais.
Dès que j'ai écrit Live Forever, là je me suis dit que je pourrais peut-être durer, parce que je savais que c'est une super chanson. Et je me suis dit, si tu peux écrire une chanson géniale, tu peux en écrire deux. Et si tu peux en écrire deux, tu peux en écrire quatre. Et c'est ce que je fais dès que je me réveille. J'essaye d'écrire des chansons géniales. Donc à partir de 93, je me suis dit, bah ouais, peut-être qu'un jour tu seras riche et célèbre.
Benjamin Durand, Nico Pratt, quand et comment avez-vous découvert Oasis ?
Alors moi, j'ai un souvenir très précis de ma découverte d'Oasis. J'étais dans un espèce de camp de vacances, c'était en Irlande, et je traînais avec une bande de Français. Et à l'époque, je dois dire que j'écoutais principalement les disques du père, c'est-à-dire REM, c'est-à-dire Toto, c'est-à-dire Genesis, sans vraiment faire le tri. Et il y a une fille que je trouvais en plus très mignonne, qui commence à lancer un titre. Et j'ai le temps d'entendre vraiment que le premier mot de la chanson qui est maybe et malheureusement à ce moment-là elle doit couper la chaîne Ifi, je pense que c'est parce qu'il y a un pion qui arrive à ce moment-là, je me souviens plus exactement, et j'ai tout juste eu le temps de demander quel était le nom du groupe, on m'a dit Oasis, et dès que je suis rentré en France, juste cette sonorité, cette voix m'obsédait, et je suis rentré en France, j'ai demandé à ma mère de m'acheter un album d'Oasis, je ne savais pas lequel, coup de bol.
On quitte la musique du père pour aller.
Voilà, exactement. Et coup de bol, elle a acheté, elle m'a offert le premier album d'Oasis, et il se trouve que ce Maybe était le premier mot de la chanson Live Forever, et à partir de là, voilà, j'étais cuit.
Benjamin ?
Moi, de mon côté, je suis un petit peu plus vieux que Nico, donc j'étais plus dans l'arrivée immédiate d'Oasis en France, et c'est vraiment lié à un phénomène particulier, c'est en province, enfin à Bourges exactement, les cars, les bus ont commencé à passer la radio, et moi j'étais très à écouter plutôt des vieux trucs, enfin j'étais très dans les Beatles, etc., et assez opposé à mes camarades de classe. Et tout d'un coup, Whatever commence à être balancé en rotation sur les radios. Et là, je me suis dit, ah, ça y est, il y a un truc de la radio qui me parle, qui enfin. Et ça a été comme ça l'occasion de me projeter dans la musique actuelle, enfin avoir quelque chose qui me ressemble dans ce qui sortait.
Donc dans un cas comme dans l'autre, c'est vraiment une sorte de d'heureux hasard. Vous entendez la chanson et tout d'un coup, il y a quelque chose qui tilte en vous.
Ouais. Et ça rejoint vraiment la carrière du groupe. C'est-à-dire que c'est un groupe dont on peut tomber amoureux en une moitié de refrain entendu un jour à la radio. Et pour le coup, ouais, c'est comme ça qu'on est tombé amoureux du groupe. Ouais. À des époques très différentes, mais c'est comme ça.
Tanguy Vassureau.
Bah, moi, c'est un peu ça aussi. C'est lors d'un journal télévisé, tout simplement. Vous savez, il y a toujours la petite partie magazine. Maintenant, il y a des reportages sur le Périgord. Mais avant, il y avait des pages culture. Et là, à un moment, je crois que c'était le journal télévisé d'Antenne 2. Bah, à l'époque, donc, il y a eu un reportage sur Oasis que je ne connaissais pas du tout. C'était vraiment le tout début du groupe, avant même, je crois, la sortie du premier album. Et il y avait un reportage sur eux, en parlant de la nouvelle sensation, comme la presse anglaise sait le faire. Mais là, c'était en France, et moi je me suis pris effectivement à moitié de refrain comme ça aussi dans la tête, et ensuite j'y suis venu, à la radio, donc j'écoutais beaucoup les radios de Libre Antenne, Fun Radio, etc., donc qui avaient des formats rock, ils ont commencé à balancer du Oasis dans tous les sens, et là j'y suis venu tout naturellement, et je me souviens aussi d'un article de Rock et Folk vraiment au lancement du groupe où ils décrivaient ça comme un mélange de l'attitude des Sex Pistols et de la pop anglaise style les Buzzcocks, etc., et forcément ça m'a parlé, quoi, parce que j'avais ces références là et j'avais envie d'aller vers quelque chose de nouveau.
Vous avez un petit côté punk, en fait, les
c'est
gens
vrai absolument pas, j'ai la crête à l'intérieur de la tête, en fait, c'est ça, pour ça que ça me gratte le cerveau et je me sens pas toujours très bien.
Et quel est votre titre préféré?
J'ai pas de titre préféré, j'ai des albums préférés, en
Alors
fait parce que je trouve que c'est le deuxième. Voilà, c'est le deuxième avec Wonderwall, justement. Enfin, voilà, parce que c'est celui que j'ai vécu le plus en direct. J'ai beaucoup aimé le premier. Et puis le deuxième, ça a été, je sais pas, c'était l'Oasis Mania, quoi. Il se passait quelque chose et j'avais vraiment l'impression d'être connecté à des tas d'autres personnes, en fait, qui écoutaient la même chose au même moment. Oui. Et je trouve ça assez magique, en fait. Il y avait un gang qui était le groupe et il y avait les fidèles du gang qui étaient tous les millions d'auditeurs. Et voilà, on se sentait connecté en quelque sorte. C'était chouette.
Benjamin Durand?
Moi, en tant qu'album, j'aurais tendance à préférer quand même Definitely Maybe, le premier, même si c'est plutôt sur le deuxième que j'y suis venu. Et chanson, c'est difficile, et c'est difficile de choisir. Mais
il y a différents moments où on peut aimer une chanson, puis un autre moment.
Il y a ça, mais je pense quand même que Live Forever a des qualités qui devraient être reconnues par dans le patrimoine éternel de l'UNESCO, des mêmes qualités qu'on peut donner à des chansons comme Smells Like Teen Spirit ou Satisfaction ou Like a Rolling Stone. Pour moi, c'est vraiment une chanson qui est à ce niveau-là.
Alors, pour le coup, j'ai bien choisi mon co-auteur. Album préféré, Definitely Maybe, chanson préférée, Live Forever.
Mais vous devriez faire un livre ensemble.
Non, alors cela dit, ex aequo ou vraiment pas loin avec The Master Plan, qui est une phase B et qui est paru sur une compilation de phase B en 98 qui s'appelait également The Master Plan. Mais je pense que c'est quand même Live Forever.
Oui, mais là, c'est le côté pointu.
C'est le côté pointu.
Là, on a séparé le bon grain de l'ivraie.
La chanson est devenue un single, devenue un single par la suite. Donc,
La chanson est devenue iconique, hein.
Et également devenue iconique, jouée souvent en live. Donc, je suis pas complètement snob sur ce coup-là.
C'est une espèce de phase B.
Je pourrais l'être beaucoup plus.
Voilà, c'est une phase B qui est devenue, en gros, une phase A dans le cœur des gens. Parce qu'aujourd'hui, elle est vraiment The Master Plan. C'est vraiment une chanson très, très, très connue, très appréciée. Elle est tellement planante, quoi. Tellement belle.
Ouais.
Ah, planée.
Oui, planer, c'est important.
Oui, mais tout à fait. Tout à fait. Et qu'est-ce qui est singulier chez ce groupe? Qu'est-ce qui fait qu'il a tiré son épingle du jeu? Parce que quand on pense à Oasis, il y a évidemment ce son qu'on reconnaît immédiatement, certaines chansons qui sont même montrées dans votre tête, des fois sans même que vous vous en aperceviez. Et puis, il y a aussi les frères Gallagher, ces deux personnalités qui donnent l'impression de se promener en faisant un doigt d'honneur à absolument toute la civilisation, en fait.
Qu'est-ce qui rend Oasis si particulier?
Qu'est-ce qui est singulier?
C'est un mélange de plusieurs choses. Déjà, on parle beaucoup des frères Gallagher, on parle beaucoup des Clash, on parle beaucoup des grandes gueules, mais il y a un truc qui est quand même très important de rappeler, c'est que au moins le temps des deux premiers albums, Noel Gallagher est le plus grand songwriter de son époque, et donc ce qui fait aussi la particularité d'Oasis, ce sont de grandes, très très grandes chansons qu'on chante encore aujourd'hui. Et en plus, il se trouve que à ce moment-là, c'est-à-dire les années 90 dans le monde et particulièrement en Angleterre, Oasis est à la fois le meilleur groupe de son époque, mais également le groupe le plus connu et le plus gros vendeur de son époque. Ce qui contribue à faire leur succès et à expliquer aussi pourquoi aujourd'hui on est encore là en train d'en parler à la radio. Mais après, ce qui est très intéressant avec le groupe, c'est que c'est une histoire musicale, c'est une histoire fraternelle, familiale, mais c'est aussi une histoire sociale, c'est aussi une histoire politique. C'est-à-dire que au travers d'Oasis, c'est quasiment l'histoire de l'Angleterre et du Royaume-Uni qui se dessine. Et je pense que c'est ce qui, au-delà du côté grande gueule, et c'est vrai que on aime aussi lire même si on écoute moins les albums, on aime lire les interviews de Liam Gallagher, Noel Gallagher, parce que les mecs sont hilarants et que qui vont forcément taper sur quelqu'un, et donc on a envie de lire ça. Ce sont un petit peu des bêtes de foire, on va dire, pour les médias, mais c'est aussi, en tout cas selon nous, et c'est ce qu'on a essayé de raconter dans le livre, ce sont aussi de fiers représentants d'une nation.
Alors comment est né le groupe Oasis? Qui en est à l'initiative?
En fait, c'est les membres dont on ne parle pas qui sont quelque part à l'initiative. C'est vraiment Bonhead, Gwigsy et Tony McCarroll qui font un groupe avec un autre chanteur, Chris Hutton, qui s'appelle The Rain. Et en fait, ça va nulle part. Et surtout, le chanteur les gonfle assez vite. Et par contre, ils ont en ligne de mire Liam Gallagher, qui est une espèce de star locale, comme ça, qui dégage un certain charisme. Et il lui propose de venir dans le groupe. Et Liam arrive et il leur dit direct, ouais, je veux bien, mais votre nom, c'est de la merde. Et ils trouvent le nom Oasis et ils sont rebaptisés Oasis. Là-dessus, Noel Gallagher, son grand frère, lui, est déjà dans le music business et il a une espèce d'aura quand même à Manchester, surtout dans ce cercle-là du Manchester assez prolétaire, parce que eux, ils sont tous bloqués à Manchester. sans espoir de vraiment aller ailleurs, alors que lui, bah, au moins, il a tiré son épingle du jeu, il est avec un groupe de rock et il voyage partout dans le monde. Donc,
il est rodé, voilà, oui.
Voilà. Il aide à déplacer.
Exactement.
C'est ça.
Il aide à monter la batterie. Ouais. Il sait pas comment ça marche, ouais. Mais il a été embarqué dans l'aventure.
Mais apparemment, il a une espèce de statut de conseiller cosmique au sein de Alice Pearl Carpets où, quand même, il donne un peu son avis sur le groupe et tout ça.
Et Benjamin, vous avez parlé de la fuite de Manchester. Mais pour que les auditeurs comprennent bien pourquoi il était nécessaire pour eux de fuir Manchester, à quoi ressemble Manchester pour le milieu ouvrier de l'époque?
Bah, Manchester, c'est assez particulier parce que c'est effectivement une ville qui a un énorme passé ouvrier hein, par rapport au textile, mais à la fin des années 60, début des années 70, toutes ces usines ferment et en plus de ça, Margaret Thatcher au pouvoir vient en plus mettre fin à la puissance du syndicat, de tous les gros syndicats. Et ce qui fait que, en fait, la classe ouvrière se trouve complètement dépourvue et recasée dans des emplois du tertiaire et souvent au chômage. Et donc, par rapport à ça, Manchester a un statut particulier parce que il y a Factory Records qui, avec des groupes comme Joy Division, New Order et ensuite les Happy Mondays, ont fait une scène qui est restée à Manchester, qui n'est pas partie à Londres. Contrairement, par exemple, aux Beatles, qui n'étaient pas du tout restés à Liverpool, qui étaient, voilà. Manchester, il y a toute une espèce de scène indie complètement indépendante des gros mastodontes majors du disque qui s'est créée. Et donc, Manchester devient...
Il y a un microcosme musical.
Voilà, c'est une espèce de république indépendante, mais qui devient un peu dangereux parce que, avec la dance music, le clubbing de la boîte de nuit, donc de Factory, qui s'appelle l'Hacienda, en fait, les dealers prennent le pouvoir parce qu'ils vendent de l'ecstasy à tout le monde et ça devient une ville extrêmement dangereuse. Et donc, il y a un phénomène à la fin des années 80 que les Anglais appellent Manchester, où en fait toute la musique qui mélange le rock et la musique électro devient super populaire avec les Happy Mondays et aussi les Stone Roses qui sont une énorme influence pour Oasis.
On va y venir.
Mais tout ça se termine à la fin des années 90 et en fait Oasis arrive sur les cendres de ce phénomène-là. Ils se sont nourris de toute cette culture-là, mais ils ont compris que rester bloqué à Manchester, c'était vraiment un frein, alors que eux, ils pensent grand. Et donc c'est pour ça que ils vont partir, ils vont utiliser toute cette expérience pour ensuite partir conquérir le monde.
Alors, ce qu'il y a de bien avec Oasis, c'est qu'on n'a jamais vraiment besoin de leur faire des compliments parce qu'ils s'en font tout seuls. Et c'est ça, être une vraie rockstar. Et justement, on écoute Rock'n'Roll Star tiré de l'album Definitely Maybe sorti en 1994. Cette émission est réalisée par Céline Mila, Jeanne Paravert l'a préparée et aujourd'hui à la technique, Grégory Wallon. Yeah. C'était Rock'n'Roll Star des frères Gallagher dans Blockbuster sur France Inter.
Je fais pas ça pour la gloire, putain. Je suis déjà assez célèbre. Ni pour gagner plus d'argent, mais parce que j'aime la musique.
Vous êtes fan d'Oasis, vous pouvez nous en parler en laissant un message au 01 56 40 30 20. Je répète, le 01 56 40 30 20. Ou en parler directement avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI.
Quand tu fais de la musique, les gens qui prêtent l'oreille sont aussi importants que les musiciens. C'est un partage, c'est 50-50. Je leur suis reconnaissant d'avoir créé leur musique, mais je suis certain que si je tombe sur Paul McCartney, il va me remercier d'avoir prêté l'oreille. Je suis un grand fan de John Lennon, mais je suis aussi un grand fan de Johnny Rotten et des Pistols. Quelque part, je me place au milieu. Je suis ni meilleur ni pire, mais j'aime le côté agressif de Johnny Rotten et de John Lydon, tout comme j'aime le côté mélodique de John Lennon.
A champagne supernova, a champagne supernova in the sky.
J'aimerais qu'on parle de la personnalité de Noël et Liam Gallagher qui sont deux personnalités très très différentes. Il y en a un qui est passé directement de jeune, un peu insouciant, qui se drogue à star du rock, et l'autre qui s'est quand même tapé un sacré paquet de petits boulots et qui a vu ce que pouvait être la vie d'un prolétaire à Manchester, Nico Prats.
Bah, rien que ça, ça explique énormément de choses, et finalement ça explique des années plus tard les nombreux clashs et surtout le clash final de 2009. C'est-à-dire que ils ont certes les mêmes origines, c'est-à-dire Manchester, ils ont certes connu presque la même enfance, c'est-à-dire une enfance faite de petites délinquances et de misère et de très peu de portes ouvertes sur l'avenir. Cependant, il y a énormément de choses qui font que, en fait, depuis le départ, ils étaient condamnés à être unis, mais en même temps être profondément en opposition. Par exemple, le père des frères Gallagher, puisque il y a un troisième frère que personne ne connaît et qui ne fait pas grand chose de sa vie, qui s'appelle Paul. Mais voilà, le père des frères Gallagher,
on va l'accueillir.
A été, il est là parmi nous. Était violent avec Noël, mais n'a jamais levé la main sur Liam, par exemple. Par la suite, en effet, Noël Gallagher a connu les petits boulots, il a connu la vie sur les chantiers. Liam Gallagher, son premier et dernier travail dans la vie, c'est rockstar. C'est-à-dire qu'il était une rockstar à partir de 18 ans. Noël Gallagher a composé tous les grands tubes. Liam se contentait de les chanter. Donc en fait, ce qui les réunit, c'est à la fois ce qu'ils représentent, c'est-à-dire une possibilité d'évasion et la possibilité d'une vie meilleure. Évidemment, ce sont les grands disques d'Oasis, c'est-à-dire qu'à partir du moment où Liam a voulu composer et où Noël a voulu davantage chanter, ce sont les albums de la deuxième partie de carrière et ce ne sont pas ceux qu'on retient. Donc voilà, donc c'est ça qui est vraiment, et c'est ça qu'on essaye de raconter dans le livre, c'est en fait comment finalement, au-delà des clashs et au-delà des chansons, voilà, tout était déjà écrit.
Tanguy Pastureau, on entend parler d'une jeunesse passée à Manchester, une jeunesse prolétarienne, etc. Comment on la vit quand on a un Breton à Rennes?
Et ben c'est un peu ça justement. Mais c'est un peu ça. Moi, j'étais pas à Rennes. En plus, j'étais dans des petits villages de Bretagne. Et quand ce groupe est arrivé avec l'ambition de conquérir le monde, je dis pas que je ressentais ça moi aussi, mais l'envie de sortir de ça. Oui, bien sûr. Et forcément, ce message-là, on l'entend. On ne peut que l'entendre en fait. Et on se sent galvanisé. On a envie de les suivre. On a envie. Moi, j'avais envie de monter à Paris. J'avais aussi envie de faire de grandes choses. Voilà. J'avais envie aussi de conquérir le monde d'une certaine manière. Donc c'était un peu la bande son de ma conquête fantasmée, quoi. Et je pense que toute personne qui s'ennuie un peu dans son environnement où il se passe pas grand chose, dans des villes ennuyeuses, ce qui est finalement 90% des villes du monde, a envie à un moment, ou en tout cas se retrouve dans cette espèce de souhait d'aller plus haut, quoi. Comme dirait Tina Arena. Voilà. Oui. Mais non, parce que je permets d'élargir un peu musicalement cette émission.
Oui, mais qui est une source d'une influence majeure du groupe Oasis.
Non, mais c'est vrai que forcément ce message-là, on l'entend, on le comprend et on se sent encore plus proche d'eux, quoi.
Benjamin Durand.
Oui, Tanguy a bien résumé la chose et c'est vrai que c'est aussi ça la force d'Oasis et en plus d'être arrivé après une période quand même où la musique mainstream, proposait vraiment du super produit
super
préfabriqué,
produit, avec des effets pyrotechniques dans les concerts,
du rock de stade, etc. Et c'était vraiment les années 80. Il faut vraiment se rappeler à quel point on avait vraiment deux marchés, les super méga stars. On avait, tu parlais des Guns, mais c'était aussi l'époque de Michael Jackson. Puis d'un autre côté, Phil Collins, c'est Dire Straits, etc. Donc on était vraiment sur de la stratosphère. Et à côté de ça, mais vraiment plein d'étages. En dessous, il y avait toute la musique indie qui va aussi nourrir Oasis, tout ce qui est toutes ces choses qu'on a redécouvert ensuite. Et d'ailleurs, je pense que nous tous, c'est Oasis qui nous a fait tirer le fil pour aller.
Oui, parce qu'ils en parlaient, en interview, et ils donnaient des références, House of Love, tout ça. Voilà. Exactement. Moi, j'ai entendu parler de ces trucs-là, donc je connaissais pas du tout. Grâce à cette passion pour Oasis, c'est ça qui est chouette.
Mais le mainstream et l'indie, avant, du coup, ne se mélangeaient pas. Il y avait le mainstream et il y avait l'indie, et l'une des grandes forces d'Oasis également. Ça a été justement de quitter l'indie pour aller vers le mainstream, mais en emmenant avec eux tout un bagage, c'est-à-dire toute l'histoire de leur label Creation, en mettant également en avant les artistes qui les ont façonnés. C'est aussi l'une des grandes forces d'Oasis, c'est d'avoir ramené de l'indie dans le mainstream.
Et c'est un peu ce que Nirvana avait fait aussi dans un sens.
Oui, absolument, ouais, exactement.
Ça, on retrouve
exactement.
Un peu ce même truc. Quoi.
Absolument. Ouais. Et d'ailleurs, on le raconte dans le bouquin, mais en fait, la naissance de la Britpop a également bénéficié entre guillemets du décès de Kurt Cobain et donc d'un certain acte de décès du grunge, même s'il y a eu des grands albums de Soundgarden et des Smashing Pumpkins après la mort de Kurt Cobain. Mais finalement, la presse musicale qui était très puissante en Angleterre dans les années 90 avait besoin de vendre du papier. Avec la fin de Nirvana, et c'est vrai que Kurt Cobain était c'était de la chair à pâté pour les journalistes et pour les pages des magazines, ils avaient besoin d'un nouveau groupe, ils avaient besoin d'un nouveau porte-étendard. Et ils n'avaient pas forcément misé sur Oasis, pour le coup. Ils misaient plus sur Blur ou ils misaient plus sur Suede. Et Oasis a raflé la tarbale.
Et Ian Brown et Stone Roses, on l'apprend dans votre livre, ont été des influences marquantes pour l'IAM. Et est-ce que vous pouvez parler un petit peu de ces groupes qui ont eu l'air vraiment d'avoir un rôle décisif à jouer dans la musique d'Oasis?
Les Stone Roses, particulièrement... Parce que les Stone Roses sortent leur premier album en 1989, qui se vend énormément en Angleterre, mais c'est vraiment un succès très très circonscrit à l'Angleterre et qui va vraiment parler là encore à cette Angleterre prolétarienne, qui vont où les Stone Roses c'est un groupe très identifié à Manchester et qui va avoir cette défiance par rapport à Londres, et ils vont saboter leur carrière de plein de manières. En se droguant beaucoup, mais aussi en ayant un label incompétent et en se mettant en opposition avec eux, ce qui fait qu'ils vont être interdits d'enregistrer. Et donc en fait, ils vont avoir une carrière stratosphérique sur leur premier album, qui va culminer avec un concert mythique à Manchester, qui est le concert de Spike Island. Mais Noel Gallagher va dire lui-même que il était à Spike Island, il s'est dit faut pas gérer les choses comme ça, faut pas être aussi replié sur soi-même, il faut partir ailleurs. Et en fait, il a, lui, alors qu'il était déjà dans l'industrie du disque, il a analysé la carrière comme les Stone Roses avec toutes les choses qu'il faut pas faire.
Alors que l'IAM, lui, a une lecture complètement différente du même concert.
Parce que lui, il a 16 ans quand, 16-17 ans quand l'album des Stone Roses sort, et pour lui, c'est la révélation que tu peux être un mec du gars du coin de la rue et décréter que t'es une rockstar, même si t'as pas les paillettes et tout le truc derrière.
Mais d'ailleurs, il devient un peu ces gens-là, même physiquement, quoi, au départ.
Exactement.
C'est ça qui est étonnant. Liam Gallagher a complètement piqué la démarche de Ian Brown, c'est-à-dire ces espèces de bras ballants et cette dégaine un pied devant l'autre en arrivant sur scène. Quand on regarde, et les gens le savent pas forcément, mais quand on regarde des extraits live des Stone Roses et de Ian Brown, c'est assez frappant.
De toute façon, ce qui est extrêmement drôle, quand on lit des témoignages des gens, notamment qui bossaient dans le studio de répète d'Oasis au Boardwalk, dans les premières années, dans les premiers concerts d'Oasis, ils disaient: qu'est-ce que c'est que ce mec qui se prend pour Ian Brown et qui chante devant 10 personnes I'm a rock and roll star? C'est ça qui est magnifique. Ouais.
Fallait y croire.
Le mec est parti avec un postulat de départ. Il dit I'm a rock and roll star devant 10 personnes. Il se retrouve pendant 20 ans à le faire devant des milliers de personnes.
C'est un peu la maxime des stars du hip-hop qui disent: si tu veux qu'on te considère comme le roi, sois le roi, quoi. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'ils étaient auto-persuadés avant de persuader les foules, quoi. C'est qui est chouette.
On va faire une légère pause dans la musique d'Oasis en écoutant Gaëtan Roussel et son nouveau titre, Est-ce que tu sais ?
Est-ce que tu sais que 8 jours ça fait 11 520 minutes à la seconde près ? Est-ce que tu sais que les avions planent 10 fois leur hauteur, dit ton maître près. Est-ce que tu sais que quand les fleurs se fanent, elles nous laissent leur odeur, leur amour, là, ici et tout autour. Est-ce que tu sais que quand le meilleur gagne, la plupart du temps c'est juste à un millimètre près. Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais. Est-ce que tu sais que de nos yeux coulent des larmes, des fleurs et des fleuves? Je peux pas te dire à la rivière après. Est-ce que tu sais que nous des doigts poussent des armes, des tonnes et des tonnes? Je peux pas te dire au drame près. Je sais pas si tu sais, je sais pas si tu sais, et je sais pas si tu sais, et je sais pas si tu sais, et je sais pas si tu sais, tu sais, je sais pas si tu sais. Je sais pas si tu sais, 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 je sais pas si tu sais.
Aujourd'hui dans Blockbuster, on parle d'Oasis et nous sommes toujours avec Nico Pratt, Benjamin Durand et mon camarade et ami Tanguy Pastureau.
Vous êtes bien sur France Inter,
Blockbuster,
avec Frédéric Sigrist.
Oasis is legacy.
Oasis, si Oasis laisse quelque chose, bah évidemment c'est subjectif, mais moi je dirais...
Don't look back in anger.
Don't look back in anger.
Alors une chanson qui a accompagné un attentat et un événement tragique en Angleterre et justement j'aimerais m'appuyer là-dessus pour savoir ce que représente Oasis pour l'Angleterre, parce qu'en fait c'est des musiciens qui sont des musiciens de stade, comme vous le dites dans le livre, et ils ont créé des hymnes d'une génération, d'un peuple. Donc que représente Oasis pour le soft power anglais?
Il y a, à mon avis, beaucoup de choses, mais je pense qu'effectivement, ils sont déjà des symboles du retour de fierté pour les Anglais, notamment dans leur espèce de course à qui domine le monde de la pop à un moment donné. On était quand même, depuis les années 60, sur un espèce de TikTok du point de vue anglais, entre d'un côté c'est les Américains qui sont forts, d'un autre côté c'est l'autre, suivant la période. Et donc, il y avait eu une énorme période Nirvana au début des années 90, et tout d'un coup, bam, Oasis a ramené la pendule de ce côté-là. Donc ça, ça a été super important. Et puis, il y a aussi l'après Thatcher, l'apogée, l'arrivée au pouvoir de Tony Blair, qui Oasis était un petit peu le porte-voix de tous ceux qui étaient étouffés et mal considérés pendant le règne conservateur, pendant cette révolution libérale qui a eu lieu et où beaucoup de valeurs de soutien social, d'attention à l'autre étaient un peu mis sous le tapis, etc. Et c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour l'Angleterre. Et voilà, cette côté voix du bon sens du peuple a été énormément appréciée.
Avec un socle travailliste et ouvrier, mais qui adopte totalement les règles de l'économie de marché. Parce
après,
que,
oui.
Et même musicalement, c'est-à-dire que Oasis a beau travailler sur son image de groupe prolétaire, voilà, qui est pas du tout dans les effets spéciaux et la pyrotechnie, n'empêche qu'on remplit des stades, on sait très très bien optimiser tout un morceau, fait. On crée des hymnes. Il y a une forme de dualité dans leur musique qu'on retrouve exactement chez Tony Blair aussi.
Mais de toute façon, Margaret Thatcher, après avoir quitté le pouvoir, on lui demande, Madame Thatcher, quel est votre plus grand accomplissement au pouvoir ? Elle répond sèchement, Tony Blair.
Et c'est ça qui est assez passionnant, c'est que Margaret Thatcher, qui a fait énormément de mal aux prolétaires, qui a fait énormément de mal aussi à la culture, c'est-à-dire qu'elle supprimait les aides au MJC, aux petites salles, enfin voilà. Du coup, énormément de musiciens se sont dressés contre elle, et paradoxalement, du coup, il y a toute une vague vraiment musicale qui est née en réaction à Thatcher. Et quelque part, finalement, sans Thatcher, on n'aurait pas forcément des groupes comme Oasis, on n'aurait pas forcément des groupes comme Primal Scream et tant d'autres. Donc, en effet, cette dualité, elle est intéressante. C'est-à-dire qu'on la déteste, mais malgré elle, elle a fait naître quelque chose de qualité.
Noël Gallagher a aussi une carrière solo. On l'écoute, qui nous interprète un titre de son tout dernier album. Mais je donnerai pas le titre parce que vraiment mon anglais il est trop pourri. Remember what might have been. Had I walked you home, I said I'd see you later. You were living the dream. But when the morning comes, you're gonna meet your mate. Doesn't cast no shadow. You chose to drift away. Look at you.
True.
C'était Noël Gallagher avec un tout nouvel extrait excellent, mais que je ne citerai pas parce que mon anglais est trop mauvais pour ça.
Frédéric Sigrist.
So far so good.
Blockbuster. Sur France Inter.
La musique, ça m'a sauvé la vie. Si je n'avais pas eu la musique, Dieu seul sait ce que je serais devenu. Elle m'a donné une direction. Ça m'a fait voyager, faire des trucs, ça m'a donné le sentiment de faire partie de quelque chose. Tu peux toujours faire des conneries dans un groupe de rock, hein, mais la musique, c'est magique. Tu fais partie d'un truc et que c'est pas banal.
Quand un couple médiatique se sépare, assez souvent, le jeu qui perdure, hein, c'est valable pour tous les grands couples dont on parle au cinéma, il n'y a qu'une envie, c'est que les gens se remettent ensemble. Et c'est vrai que Liam et Noël font deux carrières parallèles. Et je voulais vous poser la question, est-ce que l'esprit d'Oasis est en garde partagée, ou est-ce qu'il y en a vraiment un des deux qui l'incarne à lui tout seul?
Et à la grande surprise d'un petit peu tout le monde, l'esprit d'Oasis, il est davantage chez Liam Gallagher, en tout cas en ce moment. Juste après la fin d'Oasis, Noël est direct parti en solo, alors que Liam a continué avec les anciens membres du groupe sous le nom de BDI. Et c'est vrai que la presse s'intéressait assez peu à BDI, et dès le début, vraiment, on avait tous hâte de voir ce que Noël Gallagher allait faire. Et en fait, Noël Gallagher, il a sorti 3 albums en solo. Il va de plus en plus vers l'expérimentation, et surtout, il n'arrête pas de répéter en interview: J'en ai rien à faire de ce que veulent les fans d'Oasis, je ne suis pas à leur écoute. Alors que Liam s'est lancé avec un grand succès, enfin vraiment populaire mais également critique, dans une carrière solo, où là pour le coup, non seulement sur scène il chante beaucoup de chansons d'Oasis et il chante les grands tubes beaucoup plus que Noël Gallagher, mais en plus voilà, il ravive un petit peu la flamme. Et c'est vrai que on s'attendait pas, déjà personne n'aurait imaginé que Liam Gallagher était un bon, voire un très bon songwriter, puisqu'on parlait uniquement des chansons de son frère. Mais en plus, après un début de carrière solo un petit peu poussif, voire calamiteux, et ben aujourd'hui il remplit, en Angleterre en tout cas, presque des plus grandes salles que son frère.
Il n'y aurait pas eu le Covid, il aurait réuni 80 000 personnes, ouais, au Eton Park de Manchester, là où Oasis avait fait 2 concerts blindés, ouais, lors de la dernière tournée.
Noël Gallagher aujourd'hui ne remplit pas 80 000 places.
Moi je trouve en plus que Liam est plus touchant en fait que Noël. C'est-à-dire que là il y a eu un documentaire sur lui sur Arte, où on le voit vraiment proche des gens. C'est-à-dire que devant son hôtel, il va parler avec les gens, il est toujours c'est assez loin de l'image du bad boy qui envoie balader tout le monde, quoi. Il signe des autographes facilement, il discute un peu, il fait coucou, enfin des trucs finalement tout simples, quoi. Et Noël Gallagher, on l'imagine plus en star du rock, un peu toujours perché, quoi, mais loin de nous. Je trouve, quoi. Et je pense que c'est ça qui fait le charme, quoi. Il y en a un qui est plus touchant et plus qui explore aujourd'hui ses fragilités un petit peu plus. Liam Gallagher aujourd'hui, voilà, il dit j'ai vieilli, je me suis mis au jogging, j'ai l'air d'un con. Enfin voilà, mais c'est touchant et c'est drôle, quoi. Il y a un type qui reste quand même assez drôle et l'autre est quand même beaucoup plus premier degré et moins marrant, quoi.
Oui, oui, non, et puis en plus, on en parlait tout à l'heure, mais ces problèmes conjugaux aussi, je pense que ça l'a. Ah, oui. Parce que c'est arrivé en plus au moment, juste après le split.
Problèmes conjugaux de Liam.
De Liam.
Ah, d'accord.
De Liam. Quand il a dû divorcer parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait mis enceinte une maîtresse, etc. Donc, ça arrivait complètement en même temps. Donc, il a eu ce côté rock bottom et du coup, il a réussi à prendre des forces de ça, quoi.
D'accord. Et est-ce que Liam laisse la porte ouverte? J'ai eu le sentiment que...
Bref, d'envie.
Liam. Lui, il appelle son frère à dire viens, on te reforme. Bah,
mais c'est logique parce que Liam, il le dit lui-même et on l'a entendu durant cette émission, c'est pas un compositeur. Liam, c'est une rockstar. Et en effet, jamais aucun des deux séparément ne fera d'aussi grande salle que si Oasis se reforme. Liam, il n'existe qu'au travers du regard du public et au travers de l'adoration du public. Noël Gallagher, c'est différent. Noël Gallagher, lui, il existe en tant que compositeur. Et ce qui l'intéresse désormais, c'est de composer ses trucs. Et je pense qu'il s'en moque un peu de faire des plus petites salles. Liam, lui, vraiment, il a très, 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 très envie que... Pour le coup, je les crois. Quand on nous a demandé l'autre jour si on pensait qu'il faisait monter la sauce pour éventuellement une reformation du groupe. Alors déjà, je pense qu'ils ne sont pas aussi fins stratèges que ça. En tout cas, ce serait bien la première fois. Mais Liam a très envie que le groupe se reforme. Noël n'a réellement aucune envie que le groupe se reforme. Pour le coup, je les crois.
Et est-ce qu'il y aurait un autre groupe anglais qui incarnerait une sorte de poursuite de cette Britpop issue du milieu ouvrier qui vous viendrait à l'esprit ou pour l'instant on est toujours quand même sur Oasis
qui existe encore aujourd'hui non franchement je pense pas qu'on puisse imaginer un équivalent de toute façon en termes de volume de vente des choses comme ça.
Les Arctic Monkeys à leur début ont un peu représenté ça.
Bah oui mais les Arctic Monkeys là on parle d'un groupe quand même qui là encore c'est,
oui.
c'est au niveau de l'éducation au niveau
bien
de,
sûr voilà, bien sûr c'est autre mais chose. Ils représentaient quand même Alex Turner qui quand même montait sur scène en portant un jogging et des mocassins représentaient une certaine forme de succès populaire, en plus un succès moderne, c'est-à-dire qu'il y avait l'histoire comme quoi ils avaient été découverts via MySpace. Je trouvais qu'ils partagent certains brins d'ADN avec Oasis.
Au début,
en tout cas,
ils se sont un peu esthétisés.
Oui, et puis ils sont surtout devenus complètement américains
par la suite.
C'est vrai, donc voilà, mais peut-être un petit peu Arctic Monkeys. En tout cas, aujourd'hui, non, personnellement.
Moi, je trouve que la Britpop c'était un peu la dernière salve. Quoi. Après, il y a eu les groupes en jeu avec les Libertines, tout ça qui était chouette aussi, mais ça a pas duré longtemps
les groupes en jeu, c'était
The Strokes, les Libertines, etc. Après tout, enfin les Strokes continuent à tourner, mais bon, c'est un groupe américain. Mais les Libertines sont explosés en plein vol, etc. Ça a jamais duré vraiment. Et puis voilà. Non, pour moi, la Britpop, ce que j'ai aimé justement, c'est qu'il y avait Oasis, mais il y avait plein d'autres groupes à côté, y compris des groupes qui ont sorti qu'un album et qui étaient géniaux parfois. Et on s'enthousiasmait pour un single ou pour un album qu'on avait lessivé complètement un mois après, qui n'avait plus aucune importance. Mais c'était chouette, il se passait tellement de choses, quoi. C'est ce qui se passe aujourd'hui un peu, je pense, pour les gens qui aiment le rap français, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une sortie, il y a quatre sorties par semaine.
Une émulation dingue.
Voilà. Ah ouais. Et là, le rock, ben, il n'y a plus ça dans le rock aujourd'hui, quoi. C'est.
Benjamin Hirou. Mais parce que pour en venir à la Britpop, ce qui était exceptionnel, c'est que, à titre d'exemple concret, quand Oasis, Definitely Maybe, leur premier album, il devient numéro 1. Le numéro 2, c'est, je sais pas si vous vous en souvenez, les trois ténors, Pavarotti, Carreras, etc., qui avaient bénéficié, mais en France aussi, d'une campagne de pub. Il n'y avait pas une page de pub où ce disque passait, etc. C'était du matraquage. Et Oasis, qui avait vraiment pas du tout le même budget promotion, arrive quand même à se hisser là-dessus. Et juste après ça, tout d'un coup, l'Angleterre se retrouve, alors que avant c'était que des trucs du genre Céline Dion et tout ça machin, tout d'un coup c'est du rock à guitare qui redevient la norme. Et il y a des groupes qui auraient fait très peu de ventes avant qui se retrouvent propulsés à un niveau extraordinaire. Donc il faut
qui
se rendre compte
englobé dans la totalité, en fait, dans ce mouvement, quoi.
Voilà,
c'est ça qui est chouette.
Tout d'un coup, des trucs on a,
et même Pulp d'ailleurs, parce que Pulp existait avant.
Exactement.
Ils ont décollé
en
avec la Britpop.
En 77.
Voilà, à 77.
Ouais. Pulp, ils se sont formés à la fin des années 70.
Ils avaient 9 ans et demi.
Et en fait, pendant plus de 10 ans, ils ont galéré. Et en effet,
ils viennent se greffer sur la Britpop.
Exactement.
C'est génial.
Et ben voilà. En fait, comme quoi, il faut juste résister suffisamment longtemps pour attendre
faut
son
attendre.
Moment.
Ouais, ouais.
Je crois que c'est une bonne maxime de vie.
Nico Prat, Benjamin Durand, Tanguy Pastureau, merci d'avoir été avec nous dans Blockbuster pour évoquer Oasis.
C'était chouette. On a envie d'en écouter maintenant, tiens.
Mais oui, mais d'ailleurs, mais de toute façon, le but de cette émission, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que voilà, il y a pas de passion honteuse. Il faut voilà, on a le droit de se faire plaisir. On écoute les albums. Si on se dit, oh, je les connais par cœur, je les ai entendus mille fois. Bah, des fois, il faut les redécouvrir. Ouais. Moi, je les partage avec mes gosses et ils me disent, oh, c'est vachement bien ça. Et donc, en fait, ça leur donne une seconde jeunesse. C'est formidable. vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. 01 56 40 30 20. C'est votre répondeur, donc n'hésitez pas à appeler. Et vous pouvez parler directement avec moi sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI et également sur la page Facebook de l'émission. Mais là, c'est pas avec moi parce qu'ils m'ont viré.
It's a family story.
Ah oui, la famille très présente. Et du reste, encore très présente. Ma femme est sur la pochette de mon album. Donc c'est une histoire de famille, oui.
France Inter.